Voici donc l'accent des autres. Comme chaque fin de semaine, c'est votre rendez-vous avec l'actualité des médias francophones publics et la radio-télévision suisse, France Inter, RFI, Radio-Canada et la RTBF. Et on va commencer aujourd'hui en Suisse. Les projecteurs seront braqués sur Genève mercredi prochain pour le sommet entre les présidents américains et russes, Pierre Anchoffat, et tout se met en place.
Interdiction de manifester, périmètre de la rade fermé, mais l'enjeu justifie largement les désagréments pour la population, selon les autorités.
En France, l'homme qui a giflé le président Macron cette semaine a été condamné à une lourde peine de prison, Éric Delvaux.
Oui, 18 mois de prison, dont 14 avec sursis. Le gifleur a été immédiatement incarcéré, reconnu coupable de violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Il sera aussi question des suites de ce drame dans une ville de l'Ontario au Canada. Naïla Bendali, une attaque islamophobe a tué 4 membres d'une même famille.
Ça s'est passé dimanche dernier lorsqu'un homme de 20 ans a délibérément foncé sur une famille qui faisait une promenade. Un garçon de 9 ans a survécu et après la consternation, les appels à l'action.
Nous reviendrons aussi sur ces rassemblements de soutien à Olivier Dubois cette semaine, à la fois à Paris et à Bamako au Mali, Nicolas Sûr.
Oui, cela fait 2 mois que ce journaliste français installé de longue date au Mali a été enlevé.
Enfin, en Belgique, la première phase du plan été est entrée en vigueur ce mercredi, Jacques Cremers avec son cortège d'assouplissement.
Oui, c'est une première étape sur une échelle de 4. Désormais, les Belges peuvent notamment retourner au cinéma ou encore manger à l'intérieur d'un restaurant.
Et voilà donc pour le sommaire de cette semaine. Merci d'être au rendez-vous de l'accent des autres. On va donc commencer avec les préparatifs du sommet Biden-Poutine. Il se tient mercredi prochain à Genève, en Suisse. C'est un sommet qui occupe depuis un moment à la fois la Confédération et bien sûr la République et canton de Genève, Pierron.
Au terme de sa tournée européenne, Joe Biden arrivera mardi déjà. La diplomatie suisse en a profité pour s'inscrire dans l'agenda du président américain. Il rencontrera Guy Parmelin, président de la Confédération, et le ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis. La reprise du multilatéralisme après l'ère Trump et le potentiel accord de libre-échange entre la Suisse et les États-Unis devraient être abordés. Et Guy Parmelin a également obtenu un entretien avec Vladimir Poutine pour évoquer le mandat de puissance protectrice que la Suisse exerce pour la Russie et la Géorgie, et bien sûr la sécurité en Europe avec les rapports Est-Ouest.
Oui, parce que si la Suisse et Genève en particulier ont été choisies, c'est d'abord pour accueillir un sommet entre deux États étrangers.
Oui, bien sûr, ce rôle d'hospitalité diplomatique et de bons offices que la Suisse affectionne tant. On a d'ailleurs vu refleurir dans les médias les images du sommet historique entre Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev de 1985, qui a amorcé la détente entre les deux superpuissances. Un climat que les autorités genevoises souhaitent renouveler en offrant la maison de maître du parc Lagrange, une solution qui oblige le gouvernement à fermer tout le périmètre de la rade de Genève, y compris les très populaires bains des Paquis, et d'appeler les entreprises actives dans cette zone à pratiquer le télétravail le 16 juin. Des contraintes justifiées pour Sami Kanaan, membre de l'exécutif de la ville de Genève.
Peut-être c'est le souvenir du sommet Reagan-Gorbatchev de 85, où c'était aussi dans une maison de maître, et donc de rééditer la situation où il y a une ambiance peut-être un peu particulière, un peu plus inspirante. Comme le souhait des deux puissances est d'avoir un lieu exceptionnel, apparemment Lagrange a séduit. Donc on se dit que du moment que ces deux présidents, dont on sait à quel point ils ont des relations complexes en ce moment et qu'il y a des tensions internationales, se rencontrent, ben voilà, pour quelques jours de perturbation, je crois que c'est un effort qui en vaut vraiment la peine.
Un signal très positif aussi pour la Genève internationale qui tourne au ralenti depuis l'irruption de la pandémie.
Et avant Genève, Joe Biden sera à Bruxelles dès ce lundi pour un sommet de l'OTAN et un sommet États-Unis-Europe. On va parler cette fois d'un autre chef d'État, Emmanuel Macron. Le président français a été giflé cette semaine lors d'un déplacement en Drôme. Son agresseur a très rapidement été condamné à 18 mois de prison, dont 4 fermes. Il a été incarcéré. L'homme âgé de 28 ans était jusqu'ici inconnu des services de police. Il est membre d'associations en lien avec le Moyen-Âge et les arts martiaux. Il a reconnu lors de son procès que son geste était certes impulsif, mais politique aussi. Ariane Griès était au tribunal de Valence pour France Inter lors du prononcé du jugement.
Pour le procureur, cette gifle a fait l'effet d'un éclair dans un ciel sans nuages. La société française n'a pas intérêt à banaliser ce type de passage à l'acte, juge-t-il, craignant de voir des présidents bunkerisés. Quant à l'argumentation du jeune homme, on y met des gilets jaunes, de la réflexion identitaire, des arts martiaux, résume le représentant du ministère public. Et c'est vrai qu'il y avait un peu de tout dans ce procès qui a parfois pris des allures de tribune politique, comme lorsque le prévenu associe Emmanuel Macron à la déchéance de la France. Je ne l'apprécie pas, reconnaît-il, mais nie toute préméditation. Lorsque le chef de l'État s'est dirigé vers lui. Regard menteur, selon le jeune homme, il dit avoir ressenti du dégoût. Il assume, explique calmement. Je pense que ma réaction était une impulsion, mais des paroles auraient eu moins d'impact pour Emmanuel Macron, pour les gilets jaunes et pour les patriotes, explique celui qui se dit de droite. Je l'ai giflé parce qu'un sentiment d'injustice m'a parcouru. Je me suis peut-être un peu senti investi. Cet instructeur d'arts martiaux médiévaux reconnaît un geste pas forcément honorable. Le jeune homme n'a montré aucune réaction à l'annonce du jugement.
18 mois de prison donc. Quatre fermes pour cette gifle au président français. Emmanuel Macron qui a par ailleurs annoncé la fin de l'opération Barkhane, Nicolas.
Cette opération qui compte aujourd'hui plus de 5000 soldats est déployée au Sahel depuis 2014. Pour Emmanuel Macron, il ne s'agit pas d'un désengagement, mais d'une transformation profonde de la présence militaire française. En clair, des bases seront fermées, les effectifs réduits et l'accent mis sur des forces spéciales engagées dans des actions antiterroristes.
L'accent des autres.
On va revenir à présent sur cette attaque islamophobe dimanche dernier à London, c'est dans la province de l'Ontario au Canada. Une attaque qui a tué quatre membres d'une même famille. Un garçon de 9 ans est par ailleurs grièvement blessé. L'auteur présumé de l'attaque, un homme de 20 ans, a brièvement comparu cette semaine. Et Naïla, il est accusé d'assassinat.
Quatre chefs d'accusation de meurtre prémédité et un de tentative de meurtre qui pèse sur l'auteur présumé de l'attaque. Alors dimanche dernier, une famille de 5 de London se promenait en soirée. Ils attendaient sur le trottoir lorsque, selon les policiers, une camionnette les a happés. Les victimes sont Salman Afzal, 46 ans, son épouse Madiha Salman, 44 ans, leur fille de 15 ans, Yumna Salman, et la grand-mère de l'adolescente, Talat Afzal, 74 ans. Il y a aussi le fils du couple qui a été gravement blessé, mais on ne craint pas pour sa vie. La police de London a affirmé que l'attaque était préméditée et qu'elle visait la communauté musulmane. Alors, ça a été l'onde de choc, la tristesse et la consternation qui ont été ressenties un peu partout au pays. Et il y a eu veillée aux chandelles à London en présence de plusieurs politiciens, notamment le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, aussi le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, qui, lui, a condamné une attaque islamophobe motivée par la haine. Écoutons Justin Trudeau.
L'auteur de l'attaque cruelle de dimanche à London ne nous représente pas en tant que Canadiens, parce qu'on sait qu'on est plus fort dans la paix que dans la haine et la violence. Mais on sait aussi qu'il faut se dire la vérité. Cette haine existe chez nous, que ce soit dans la rue, en ligne ou ailleurs. Et tant qu'elle va exister, on va avoir du travail à faire.
Justin Trudeau, donc, à l'instant, le premier ministre canadien. Au-delà des condamnations, Naïla, des musulmans à travers le pays veulent maintenant des actions concrètes pour lutter contre la haine.
Oui, parce que pendant la veillée à London, il y a des gens qui ont exprimé de la colère à l'égard des politiciens parce qu'on dit qu'on n'a pas l'impression qu'ils en font assez pour mettre un frein à cette haine. Il y a des musulmans qui disent que ce n'est pas un incident isolé, qu'ils ont peur d'être ciblés, qu'ils ne se sentent pas en sécurité, peur que ça se reproduise. On a connu aussi une horreur comme ça lors de l'attentat à la mosquée de Québec. C'était en janvier 2017. 6 fidèles qui avaient été tués par balle. Alors, on veut plus que des discours. Mohamed Boudjenan de la Fédération canado-arabe.
C'est assez décourageant de voir ces discours qui sont, à notre avis, encore des discours vides de sens. Quand il y a eu ce crimineux justement à la mosquée de Québec, ils sont tous sortis, on a vu des marches, on a vu du soutien aux communautés musulmanes, et c'est bien, c'est important. Mais ensuite, on n'a rien vu.
Certaines personnes comme Mohamed Labidi, qui est le cofondateur du Centre culturel islamique de Québec, demandent une commission d'enquête publique sur l'islamophobie pour comprendre ce qui alimente cette haine.
Sur le sol africain, à présent, cela fait 2 mois maintenant que le journaliste français Olivier Dubois a été enlevé dans le nord du Mali. Mardi dernier, des rassemblements de soutien ont été organisés à la fois à Paris et à Bamako, au Mali, où il vit en famille depuis 6 ans, Nicolas.
Amis, confrères, employeurs, ils étaient une centaine à s'être retrouvés place de la République à Paris pour le rassemblement organisé par Reporters sans frontières. Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF.
C'est un message adressé à Olivier Dubois, là où il est détenu, qui pourrait le recevoir. C'est un message évidemment pour les autorités françaises et maliennes, ça pose une exigence. Et on entend que ça demeure une priorité que d'obtenir sa libération.
5 journalistes ex-otages ont également répondu présents, dont Florence Aubenas du journal Le Monde, qui fut détenue en Irak pendant 6 mois en 2005.
Je fais partie de ce terrible club des ex-otages, s'entend, c'est-à-dire ceux qui ont eu la chance de sortir. Et je pense que cette chance, il faut la donner à Olivier. Tous ensemble, on peut arriver à le faire sortir.
Ils étaient aussi une centaine au même moment à la maison de la presse à Bamako, car Olivier Dubois est aussi une figure bien connue du monde médiatique malien. Le documentariste Moustapha Diallo l'a accompagné en reportage.
On a été au pays d'Ogon pour filmer le Danama Sogo. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi engagé comme ça sur le terrain. J'espère qu'il va nous revenir.
C'est sur le terrain, lors d'un déplacement à Gao, qu'Olivier Dubois a disparu. Il avait prévu d'interviewer un cadre du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. On ne l'a revu depuis qu'une fois dans une vidéo dans laquelle il explique que c'est bien ce groupe, le GSIM, qui l'a enlevé.
Enfin, en Belgique, on retiendra cette semaine l'activation de la phase 1 du plan été. Les conditions étaient réunies en termes sanitaires. Les autorités ont donc donné leur feu vert mercredi dernier à la levée d'une série de mesures de restriction liées à l'épidémie de Covid, Jacques.
Oui, à la fois le nombre de patients aux soins intensifs est passé largement sous la barre des 500 et plus de 80% des plus fragiles sont désormais vaccinés. La baisse continue des contaminations et l'accélération de la vaccination permettent donc une série d'assouplissements et après des mois de privation et de restrictions, les Belges étaient au rendez-vous de ce moment de liberté retrouvée, les uns pour aller voir un film au cinéma.
J'attends depuis des mois. Vous voulez être présente à l'ouverture.
Oui, c'est vraiment important, ça nous manquait super fort, quoi.
On est très très heureux, après 32 semaines, de pouvoir retourner devant un grand écran.
Les autres pour déguster un café ou un menu à l'intérieur d'un restaurant.
Quand on fait nos courses et on a un peu le temps, on vient boire un petit café et moins une bière.
On a des courses, on va boire encore ici quelque chose, mais on ne va pas à la maison, hein. Il y a encore des terrasses, hein.
D'autres encore pour abandonner le masque dans l'espace public bruxellois.
Ça fait vraiment plaisir. Ce matin, à chaque fois, je le remets et du coup, c'est mon ami qui me dit « Mais non, mais on peut l'enlever. » Et donc, ça fait vraiment plaisir de respirer. Même de voir les gens, c'est plus humain, je trouve.
Pouvoir voir des visages qui sourient, rien que ça.
La prochaine étape, la phase 2 du plan été, qui en comporte 4, ce sera le 1er juillet. Pour autant que le seuil épidémiologique fixé par le gouvernement soit atteint, d'autres mesures d'assouplissement entreront en vigueur, notamment une augmentation des jauges pour les événements à l'intérieur. Prudentes, les autorités recommandent à la population de conserver les gestes barrières, d'aérer les intérieurs, de continuer à se faire vacciner, de se réunir en petits comités. Une dizaine d'astuces pour profiter de l'été, a dit le Premier ministre.
Oui, et le déconfinement se précise aussi en France. Éric, depuis mercredi, le couvre-feu est reculé à 23 heures.
Oui, ce couvre-feu était en vigueur en France depuis la mi-mai et il est prévu qu'il disparaisse à partir du 30 juin. Alors depuis mercredi, les salles intérieures des restaurants ont pu rouvrir, tout comme les stades, les salles de sport, les festivals. Tout cela évidemment avec encore quelques normes sanitaires assez strictes. Rendez-vous donc au 30 juin pour voir les dernières barrières disparaître en France, sauf si l'épidémie devait reprendre un peu de vigueur.
Ce que personne ne souhaite, évidemment. Merci Éric Delvaux pour France Inter et merci à tous. C'était, comme chaque semaine, l'actualité des médias francophones publics, l'accent des autres avec RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, France Inter et la RTBF. Excellente fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure.